Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 25 avril 2023. Nous sommes passés d'une excitation sans borne avec la crise des banques d'il y a quelques semaines à cette espèce de zone léthargique où plus personne ne fait rien en attendant je ne sais quelle indication en provenance de je ne sais quelle institution ou quelle société. Nous sommes comme paralysés au milieu de nulle part, attendant l'information qui peut tout changer. Actuellement, tout le monde sait à quoi s'en tenir pour les taux, l'inflation et la récession. Enfin, tout le monde pense savoir à quoi s'en tenir. Et dans le doute, personne ne fait rien, mis à part attendre quelque chose. Personne ne sait ce que c'est, mais on le saura quand on le verra. Je vais tenter de ne pas vous bassiner avec mes statistiques à deux balles, mais je peux vous dire qu'après avoir vécu l'affaire Crédit Suisse et le trafic que cela a généré sur des sites comme le nôtre ou sur YouTube, il est assez frappant de voir que nous sommes passés du « tout le monde ne parle que de finance et tout le monde a une opinion sur le sujet » à « tu fais quoi ce week-end ?». L'engouement est retombé comme un soufflet qui ressort du four et nous sommes scotchés dans cette ambiance d'attentisme détestable à passer notre temps à chercher la news qui va intéresser le marché ou, le cas échéant, le lecteur de demain matin. Et ça n'est de loin pas facile. Quand vous commencez la rédaction de la chronique d'hier matin en vous disant « saperlipopette, il n'y a rien à dire », oui, j'ai mis saperlipopette parce que putain de bordel, ça fait pas très sérieux, autant vous dire que lorsque vous arrivez au milieu de la nuit devant votre écran ce mardi matin et que vous voyez que le DAX a perdu 0,11%, que le CAC recule de 0,04%, avec un SMI en hausse de 0,06%, que vous vous apercevez que c'est pas mieux aux States avec le S&P 500 qui grappille 0,09%, pendant que tout le monde prend les profits sur la tech à l'aube de l'avalanche des résultats qui nous pend au nez. Vous vous demandez soudain si ça ne serait pas plus rigolo et constructif de commencer à faire des chroniques sur la reproduction des amibes monocellulaires en milieu humide que de se prendre la tête tous les matins pour trouver la news qui va faire vibrer le peu de personnes qui s'intéressent encore à la finance alors que les banques ne font même plus faillite et que c'est même plus drôle. C'est triste à dire, mais c'était mieux avant. Avant que l'on ait les CDS, avant on avait les CDS de la Deutsche Bank qui prenaient l'ascenseur le vendredi soir et que pendant le week-end, on se rongeait les ongles en se demandant quand est-ce que le chauve qui pilote l'Allemagne allait se pointer à la télévision pour dire « Ich bin ein Berliner, aber wir haben keine Deutsche Bank über alles ». Et là, depuis deux semaines, la volatilité s'enfonce dans une déprime totale et on a l'impression que les seules options qui sont encore traitées dans ce marché, c'est des options put sur la VIX tellement plus rien ne se passe. Si vous demandez à un financier ce qu'il pense du marché, il va vous sortir la tirade habituelle. L'inflation commence à reculer et la Fed va probablement monter les taux de 0,25% la semaine prochaine pour la première fois. Ensuite, l'économie devrait continuer à ralentir parce que les taux sont trop élevés, le coût de l'argent reste cher, mais étant donné la force relative de l'économie US et le fait que le dollar ne vaut bientôt plus que le pognon du Monopoly de ton gamin de 8 ans, nous devrions être capables d'éviter la récession. Et puis, si tout va bien, la Fed va ensuite baisser les taux pour relancer l'économie et soulager les ménages et les consommateurs. Consommateurs et ménages qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. Et puis ensuite, on sera en 2024 et on pourra ressortir les bonnes pièces statistiques qui disent que les années électorales sont généralement trop bonnes. À ce stade-là, le S&P 500 devrait être à 6000 points et Joe Biden sera momifié avant d'être réélu à la tête du pays. En gros, bien sûr, évidemment, j'ironise, mais c'est plus ou moins ce genre de discours que nous avons été programmés à utiliser depuis le suicide du Crédit Suisse, suicide qui aura au moins permis de clôturer le chapitre crise des banques. Oui, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais autant il y a un mois, je ne pouvais pas faire un pas dans la rue sans que quelqu'un m'arrête pour me dire « tu crois que je peux laisser mon pognon au Crédit Suisse ?» Ou est-ce que je dois transformer mon lingot d'or et l'enterrer sous mon chalet à Verbier ? Et hier, t'as le Crédit Suisse qui t'annonce lors de sa dernière présentation des chiffres trimestriels de son histoire qu'ils ont perdu 200 milliards d'assets sous gestion, 120 milliards en 2022 et le reste le vendredi avant que le Conseil fédéral, la FINMA et la BNS se prennent pour Goldman Sachs et organisent un mariage arrangé qui donnait l'impression, en comparaison, qu'il y a vraiment de l'amour dans les mariages arrangés chez les talibans. Mais tout le monde s'en fout. Le management du Crédit Suisse aurait pu venir déguisé en drag queen, complètement bourré, le marché n'aurait pas bronché et l'intérêt ne serait pas monté d'un degré. Tout le monde a oublié la crise des banques et la seule chose qui nous intéresse, c'est que l'inflation ne monte pas trop et que la Fed arrête de nous pourrir la vie avec ses hausses de taux. Et puis après, on parlera du PIB, de la récession, on se demandera vraiment s'il faut vendre en mai et se casser sur une plage de Thaïlande pour les 6 mois qui viennent. Bah vous savez quoi, afin de lever le doute, je veux bien tenter l'expérience et vous faire des chroniques depuis là-bas. Mais passons, nous sommes donc dans une léthargie totale et la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir de combien de pourcents LVMH est monté hier. D'ailleurs, la société de Bernard est devenue la première boîte européenne à passer la barre des 500 milliards de capitalisation boursière. Je crois d'ailleurs que c'était la nouvelle la plus excitante de la séance. Et puis, alors que tout le monde attendait la semaine monstrueuse des trimestriels qui arrive dès aujourd'hui avec Verizon, UPS, GE, GM, McDo, 3M, Spotify et Pepsi. Bon, il y a aussi Raytheon, mais comme ils font des armes, c'est péché d'en parler. En plus, et puis, ils ne sont pas ESG compatibles et encore moins dans l'économie circulaire. Ensuite, après la clôture, il y aura Microsoft et Google, mais aussi Texas Instruments et Visa. Mais alors que l'on se répétait la liste des trucs importants en boucle, il y a eu les chiffres de First Republic qui sont sortis. Et ça, c'était drôle. Même si on était resté bloqué sur les 500 milliards de capitalisation de LVMH. Le premier trimestre a été une véritable catastrophe pour First Republic et visiblement ce n'est que le début. Parce que ils se sont pas fait racheter par la FINMA et la BNS, les dépôts ont chuté de près de 72 milliards, soit 41% rien qu'entre le moment où la SVB est partie en vrille jusqu'à que la Deutsche Bank ne finisse pas à la casse. À l'heure actuelle, First Republic a des dépôts pour 104,5 milliards, dont 30 milliards qui ont été filés par les grandes banques en guise de charité. En gros, la claque est monstrueuse et on voit mal comment il pourrait être profitable lors du prochain trimestre. Le pire reste peut-être à venir. En tout cas, hier, l'action se faisait défoncer de 22% after close. Et perso, j'aurai mes comptes là-bas, je solderai tout et j'irai tout mettre en Bitcoin chez FTX, c'est probablement moins dangereux. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse vraiment, les chiffres du trimestre, le GDP américain, les chiffres du PCE à venir et le meeting de la Fed de la semaine prochaine. Et laissons derrière nous le fait que le système bancaire a encore plus de cicatrices qu'un poulet qui aurait été émincé pour être cuisiné à la zurichoise. Oui, je sais, d'habitude c'est du veau, mais ça va très bien aussi avec le poulet. Ce matin, en Asie, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a réaffirmé la politique décontractée de la Banque centrale, et ce, quelques jours avant sa première réunion de la politique monétaire en tant que nouveau capitaine du navire. Le Nikkei a apprécié le message et monte de 0,4%. C'est moins drôle ailleurs, la Chine recule de 0,58% et Hong Kong est en baisse de 1,59%. Il faut dire que Biden devrait annoncer de nouveaux efforts spécifiques en matière de dissuasion nucléaire vis-à-vis de la Corée du Nord, ainsi qu'une nouvelle initiative en matière de cybersécurité. Actuellement, le président sud-coréen est à la Maison Blanche et on voit bien que Biden est en train de mettre ses pions un peu partout pour qu'il arrive à déclencher sa guerre à lui. Mais visiblement, il hésite entre la Chine, la Corée du Nord ou la Russie. L'avantage, c'est que vu l'état de son cerveau et le fait qu'il est incapable de se rappeler ce qu'il a mangé à midi alors qu'il est encore en train de manger, il y a de fortes chances qu'il ait oublié les codes nucléaires ou alors qu'il décide de relancer l'opération Overlord pour libérer la France des méchants envahisseurs nazis. Pour le reste, le pétrole remonte un poil, mais on n'est pas encore à 100$. Le Brut traite actuellement à 78 et des poussières. L'or semble avoir terminé sa baisse et devrait tenter le retour durable au-dessus des 2000$ tout soudain. À l'heure actuelle, nous sommes à 2005. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, deux analystes se sont penchés sur le cas du Bitcoin depuis deux jours. Et à voir ce qu'ils en ont conclu, vous pouvez fermer votre compte chez Apple, votre livret A chez Macron et aller acheter du Bitcoin. Chez Bank of America, on parie sur 50 000$ cette année encore. Et chez Standard Chartered, c'est 100 000$ à coup sûr, mais en 2024. Là, tout de suite, le Bitcoin sont en panne et il se traite à 27 435. Pas grand chose à se mettre sous la dent en attendant les publications du jour qui vont nous prendre tout notre temps. Les médias reviennent massivement sur le fait que les marchés sont calmes, un peu trop calmes, mais que ça ne devrait pas durer. Autrement, on se prépare à la suite des événements médiatiques et l'on répète régulièrement les gestes qu'il faut faire en cas de dépressurisation brutale des marchés. On notera que Coinbase contre-attaque et ils sont en train de traîner la SEC devant les tribunaux parce que l'autorité supérieure des marchés n'a pas répondu à leur message. C'est courageux, oser s'en prendre à des êtres supérieurs comme la SEC, ça équivaut à se prendre pour le gars de la caisse de pension de Migros, les gars de la caisse de pension de Migros qui s'en prennent à la FINMA. Sauf que la FINMA, personne ne sait qui c'est. En dehors des publications trimestrielles et du fait que l'on s'emmerde à un niveau jamais vu, qu'on pourrait presque se prendre pour des aventuriers qui découvrent une terre étrangère. Il y aura tout de même le trade balance en Suisse, puis les prix de l'immobilier aux USA, les permis de construire, la confiance du consommateur et 2-3 chiffres manufacturiers locaux également. Attention aux chiffres de l'immobilier, vu l'état du secteur, ça pourrait secouer. Et puis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le plafond de la dette n'est toujours pas réglé. Je dis ça, je dis rien. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée. Je me réjouis déjà de vous retrouver demain pour parler de Microsoft et de Google, histoire de voir si le monde est toujours le même. À demain !